classique, vous avez dit classique. Une émission présentée par Laure Schnapper.
Bonsoir à tous. Ce soir, à mes côtés, le pianiste Marc-Antoine Pinjon et Cédric Kleinklaus, qui sont cofondateurs tous les deux de l'orchestre Eugénie.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, messieurs, bonsoir. L'orchestre Eugénie est original. Vous dirigez aussi un institut de recherche et de conservation de la musique française de salon. Alors, en effet, vous travaillez sur un répertoire inhabituel, un premier CD apparu en 2005 avec des œuvres d'Émile Waldteufel. Alors, comment est-ce que vous êtes arrivés tous les deux à vous intéresser à ce répertoire de salon du 19e siècle ?
Je crois que c'est d'abord un peu une rencontre avec ce fameux Émile Waldteufel, pour ma part. Moi, je le connaissais puisque je viens de Strasbourg.
Donc, vous êtes Cédric, effectivement, Kleinklaus.
Voilà.
Donc, un nom typiquement strasbourgeois, donc comme Waldteufel.
Voilà. Et quand j'étais jeune, moi, j'en entendais beaucoup parler. J'entendais des anciens siffloter des airs. Et jusqu'à un certain âge, quand vous commencez un peu à vous intéresser à la musique, eh bien, vous devenez un peu plus curieux. Et vous commencez à chercher des enregistrements. Et il n'y en a pas tant que ça, finalement. Et vous entendez parler de ce monsieur, de ses œuvres. Et puis, on commence à vous expliquer d'où il venait, pour qui il travaillait, pour l'empereur Napoléon III, je précise, le troisième. Et bien, il avait un immense prestige. Et je ne trouvais pas grand-chose. Donc, c'était un petit peu frustrant pour ma part. Donc, j'ai commencé à gratter. Et finalement, ce qui m'intéressait au fond, c'était son histoire, mais c'était aussi sa musique. Jusqu'au jour où j'ai rencontré Marc-Antoine Pinjon.
C'est là que j'interviens.
Et où je lui ai mis deux partitions, je lui ai dit, tiens, est-ce que tu connais ? Et puis il me fait, il regarde, il fait, c'est une valse. Je lui ai dit, joue-la maintenant. Et c'était le début de l'aventure, parce que finalement, il pensait connaître, et puis finalement, il ne connaissait pas du tout. C'était un style qui était un peu particulier. Et voilà.
C'est-à-dire que c'est toujours la même histoire avec ces musiciens dont on croit qu'ils sont célèbres et qu'en fait, finalement, ils l'ont été sans doute à un moment et ça a été colporté comme
Waldteufel, il y a beaucoup de gens, je pense qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui ne connaissent pas ce nom. Évident.
Mais à une époque,
mais la musique, on la connaît.
Manifestement, ça a été connu, ça a été même peut-être trop connu au point que justement, ça a été peut-être un peu négligé et abandonné pendant tout un temps. Et puis, il y a eu le phénomène de musique viennoise aussi, je veux dire, de tout le phénomène concert de Nouvel An à Vienne avec cette renaissance et ce prestige autour de la valse viennoise qui a certainement aussi éclipsé tout un pendant chez nous. Et puis parce que chez nous, on faisait plus de valse depuis peut-être assez longtemps.
Oui, c'est ça. En fait, c'était de la musique fonctionnelle, finalement. C'était
absolument
de la musique de danse. À partir du moment où on danse plus, c'est évident que tout ce répertoire est tombé.
Je pense qu'il y en avait tellement aussi. Ça a quand même commencé, un phénomène qui a commencé dans les années 1820-1830. Et on dansait principalement la valse jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et on en avait vraiment à toutes les sauces. Et je pense qu'après la Première Guerre mondiale, d'un seul coup, il y a eu un vent nouveau qui est arrivé. Et ça a complètement éclipsé ce répertoire-là. Ce répertoire-là qui était tellement
réputé.
Oui,
il y a eu l'arrivée du jazz qui a complètement, effectivement,
rendu. Et tout le monde avait ça dans son... avait des partitions de valse chez soi. Donc, il y en avait tellement qu'on ne pensait même pas à préserver ou au moins à le garder parce qu'un jour, ça risquerait de disparaître.
Oui, puis c'était pas considéré comme de la musique très sérieuse.
Exactement, il y a ce côté-là aussi. C'était de la musique populaire.
Ça a été éclipsé pendant longtemps à cause de ça, je pense aussi.
Souvent tendance à comparer, des fois, quand on a besoin de se donner des idées en répétition, de rappeler aux musiciens que cette musique-là, c'est l'équivalent, quelque part, de la dance music d'aujourd'hui. C'était de la musique complètement populaire, destinée à faire la fête, destinée au divertissement et à la danse. Et c'était pas le grand grand répertoire officiel de l'opéra ou les grandes symphonies élaborées qu'on pouvait trouver d'ailleurs à la même époque à côté.
Alors qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette musique? Vous trouvez que c'est quand même de la bonne musique?
Exactement, oui, bah ça c'est clair. j'avais peut-être déjà des affinités avec la musique légère depuis un moment. Je m'intéressais aussi à tout l'opéra comique de cette période-là. Ce qui nous a intéressé dans cette musique, c'est qu'elle nous a séduit, effectivement. C'est de la bonne musique.
C'est bien fait, c'est bien écrit.
Il y a de tout. C'est vrai, quand on regarde tout le répertoire qui a été écrit entre 1830 et 1914 environ, il y a différentes périodes aussi. Hein. La musique, elle change dans le même genre de registre de danse. On a une période au début qui est très fonctionnelle où il faut bien avoir les trois temps pour bien danser, voilà. Et puis on a une période à la fin où, on dansait moins à cette époque-là, ce genre de danse, bah, la musique devient plus séduisante et peut-être plus fait pour être écouté, hein, plus élaboré.
Il y a une évolution qui est liée à la fonction. Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'on entende un premier enregistrement d'une polka marche de quelqu'un qu'on a vraiment aussi, là aussi, oublié, alors qu'il était très connu, me disiez-vous, Olivier Métra, qui était né en 1830 et qui était violoniste.
Oui, oui.
Et chef d'orchestre.
Qui a fait ses débuts chez Mabille, au bal Mabille, oui. Le fameux bal Mabille qu'on retrouve dans pas mal de
romans,
de bouquins.
Ouais.
Et qui a officié un peu partout. Quand on regarde son curriculum, ça allait de l'opéra comique au Folies
Bergère. Il a même fini à l'opéra.
Il a fait les bals de l'opéra, rôle qu'il a partagé en alternance pour les carnavals d'ailleurs avec Isaac Strauss et Émile Waldteufel.
Dont on va parler tout à l'heure. Alors je vous propose donc une polka marche qu'il aurait d'ailleurs écrite pour l'orchestre des Folies Bergère, donc enregistrée par votre orchestre. Et extrait du ballet Les Volontaires.
Thank you.
Alors, cette polka marche débutait en fait les bals.
Oui, voilà, c'est ce genre de danse. La marche, ça évoque pas forcément une danse, mais en fait, ça fait partie des danses qui servent à ouvrir le bal, principalement. Donc, il y a tout un parcours à faire, c'est chorégraphié.
D'accord.
Voilà. Et donc, comme c'est une polka marche, en fait, on peut la danser de deux façons, ou bien comme une marche, ou bien comme une polka.
D'accord. Alors, donc, ça, c'était Olivier Métra. Alors, évidemment, il y en avait beaucoup d'autres, et en particulier, celui qu'on connaît un peu mieux, Isaac Strauss, l'arrière-grand-père donc, de Claude Lévi-Strauss, qui était violoniste et qu'il ne faut pas évidemment confondre avec la dynastie viennoise des Strauss.
Voilà, exactement. Hein. Celui-ci est bien de chez nous, il est alsacien, hein, et il a fait toute une partie de sa carrière dans les stations
balnéaires
et thermales, notamment à Aix.
Aix-les-Bains.
Aix-les-Bains et à Vichy, bien sûr, où il avait une résidence. D'ailleurs, il y a toujours sa villa qui, aujourd'hui, je crois, sert une salle municipale. Enfin bon, en tout cas, il y a la plaque dessus. C'était la villa où il recevait l'empereur.
La villa où il a reçu. Voilà, il y a une gravure très connue. Hein, on le voit avec Napoléon III et au balcon de cette villa.
C'est ça, ils étaient très proches.
Et Cédric Lagnès.
Alors, j'aimerais préciser une petite chose sur le nom d'Isaac Strauss. Et notamment sur, parfois on entend dire que Isaac Strauss, il s'est fait prénommer Strauss pour ressembler au Strauss de Vienne. Il faut quand même rappeler une chose, Isaac Strauss est né en 1806 et il est né à l'état civil sous le nom d'Emmanuel Israël. Et que c'est son père qui a changé de nom en 1808. C'était Napoléon qui, par une nouvelle loi, avait décidé que tous les Juifs doivent porter un nom fixe à l'état civil. Et c'est donc son père qui a choisi le nom de Strauss. Et donc, il n'y a aucun lien ou aucun changement de nom, comme on entend parfois dire, dans le but de parasiter le Strauss de Vienne.
Bien.
Les choses sont claires.
Alors, nous allons écouter l'adieu, Polka Mazurka. C'est une valse dédiée à l'empereur Napoléon III.
C'est pas une valse, hein, c'est une polka mazurka.
Ah oui, pardon.
Thank you.
Alors, Isaac Strauss était directeur des bals de Napoléon III. On le connaît évidemment aussi aujourd'hui comme le principal donateur du fonds du musée d'art et d'histoire du judaïsme, puisqu'il a donné sa collection, d'abord au musée de Cluny. Et puis ensuite, il a été remplacé, on peut dire, par Émile Waldteufel.
Oui, bah, c'est-à-dire que Strauss était déjà âgé dans les années à la fin du Second Empire, et donc il avait l'intention d'arrêter. Et à ce moment-là, ils ont cherché évidemment à renouveler un peu de la succession. Et il y avait plusieurs orchestres en fait hein, durant les soirées de l'empereur aux Tuileries. Et donc ils ont recruté en fait l'orchestre Waldteufel. Par tout un jeu, parce que en fait, Émile était déjà pianiste de l'impératrice Eugénie à ce moment-là. Voilà. Et donc, l'orchestre Waldteufel n'a pas pris tout de suite la suite, ils ont cohabité dans un premier temps. Et puis, quand Strauss a pris sa retraite, il est resté l'orchestre Waldteufel qui est devenu l'orchestre principal.
Alors, justement, nous allons entendre une œuvre très célèbre de Waldteufel. Donc, même les auditeurs qui n'auraient jamais entendu parler de Waldteufel la vont reconnaître. C'est la fameuse valse Amour et Printemps. Mmh. Alors, ce ne sera pas vous, ce ne sera pas votre orchestre Eugénie qui va jouer, pour une raison très simple.
Nous, on joue une version bien particulière, on joue la version originale chantée, puisqu'en fait, c'est une valse chantée à l'origine.
Voilà, c'est une chanson finalement.
Voilà, c'est une chanson.
Et l'orchestre Waldteufel, enfin, Waldteufel l'a orchestré.
Alors, Waldteufel l'a orchestré sous forme d'orchestre simple, parce que ça avait eu beaucoup de succès, que ça marchait bien. Et on la connaît en fait uniquement quasiment dans cette version-là, alors que la version chantée est un tout petit peu différente, un tout petit peu évidemment plus intimiste. Elle est pour chant et piano à la base, donc nous on en a fait une version pour chant et orchestre de salon.
Et on va l'entendre bientôt, je crois que vous allez donner un concert au mois de mars.
Voilà, c'est ça, le 13 mars, salle Corto à 17h.
Où on va entendre justement la version chantée de cette valse qu'on entend maintenant par le trio d'Orsay dans un arrangement de Jean-François Zigel, donc pour un trio.
Thank you.
Alors Marc-Antoine Pinjon et Cédric Klein-Claus, on reviendra avec vous la prochaine émission sur cette dynastie Waldteufel. Je redis que vous faites un concert le dimanche 13 mars à 17h, salle Cortot, avec ce répertoire donc, et l'orchestre Eugénie que vous avez tous les deux cofondé. Merci et bonsoir à tous.
Merci.
Merci, bonsoir.
Classique, vous avez dit classique, une émission présentée par Laure Schnapper.